This city, of all cities, knows the dream of freedom.
Toi qui souffres, ici on t'aime.
I take pride in the words, Ich bin ein Berliner.
I have a dream.
Il ne durera pas toujours cette guerre.
J'invite tous les militaires français, où qu'ils se trouvent, à se mettre en rapport avec moi.
François Mitterrand l'affirme, il est en pleine santé.
Attendez que la gauche pense everywhere en 2012.
I said I want to fuck her.
Que des mots pas très gentils.
Et tout se résume à aujourd'hui.
Jazzons l'histoire ou quand le jazz retrouve quelques repères, une émission de Gérard Viols et Alain Vaquier réalisée par Léna Kim. Alors, lors des épisodes précédents, nous avons évoqué le changement, le tournant, la façon dont la société évolue, que ce soit aux États-Unis ou en France. Et le jazz, lui, le jazz suit ce mouvement et également évolue avec comme vigie ou comme fil rouge, pourrait-on dire, John Coltrane et ses mutations. Alors évidemment, il n'est pas le seul, il y a d'autres musiciens qui font leur apparition, Ornette Coleman, Albert Ayler ou Sun Ra, dont on reparlera tout à l'heure. Mais peu à peu, c'est quand même celui qui va assurer la transition entre ce qu'il est convenu d'appeler le bebop, le mouvement qui a précédé cette nouvelle musique, cette new thing qui apparaît et qui va donner progressivement un courant que l'on appellera plus tard le free jazz. John Coltrane est un musicien qui est très imbu, enfin qui est pénétré par une spiritualité très forte. Et peu à peu, cette aspiration, cette envie va prendre le pas sur la musique, ou en tout cas se conjuguer avec la musique et donc inspirer le musicien et l'amener vers des sommets quelquefois très difficiles à suivre par l'auditeur. Mais n'anticipons pas. Que se passe-t-il en France en 1960 ? En dehors du fait qu'il s'agit de la guerre d'Algérie, que l'on décolonise à tout vent, on l'a vu dans un épisode précédent, eh bien, il se passe que la société est ébranlée par un certain nombre de phénomènes. Parmi ces phénomènes, il en est un, c'est l'émergence de journaux. Alors on voit apparaître, technologie oblige, plusieurs journaux de télévision, dont Télé 7 jours qui fait les beaux jours du téléspectateur lambda. Et puis on voit apparaître un journal complètement décalé, qui s'inscrit un petit peu dans la mouvance d'une émission de télévision qui s'appelait Les Raisins Verts et qu'avait conçu Jean-Christophe Averty. Il n'en fera pas beaucoup parce que très vite, ces émissions vont choquer. On passait des bébés à la moulinette et le climat de la France de 1960 n'était pas prêt à voir des choses pareilles. Et donc, dans cette mouvance-là, eh bien, une bande de copains emmenés par Cavana, vont créer le premier journal « Bête et méchant », journal satirique, qui donc va créer un véritable esprit, une véritable mode presque. Et donc, entre le professeur Choron et Cavana, le premier numéro va paraître dans le courant de l'année 60. Ce journal aura de quelques beaux jours, avec des difficultés, des procès, des censures, des interdictions, jusqu'à ce que, à la mort du général de Gaulle, puisqu'il faut rappeler que tout ça se situe dans un temps où la France est dirigée par un général, certes un général à la retraite, mais un général quand même, et jusqu'à la mort de ce général qui, à cause d'un titre que Cavana explique, à cause de ce titre, eh bien, le journal sera définitivement interdit pour renaître quelques années plus tard sous la forme de Charlie Hebdo. Mais tout ça est une autre histoire. Revenons à Harakiri et écoutons en 2011 le récit que faisait presque ému Cavana de la création et de l'esprit qui présidait à Harakiri.
Bonjour François Cavana, c'est un grand plaisir de vous accueillir. Il y a dans ces années 60 une véritable révolution qui se produit dans le monde du livre et de l'édition, c'est Harakiri. C'est vous qui en êtes le responsable encore aujourd'hui, on va dire. C'est à cause de vous tout ça.
C'est à cause de moi, oui. Humblement, je reconnais, j'en suis l'inventeur, l'inspirateur et pendant longtemps le rédacteur en chef.
C'est en septembre 1960 que paraît le premier Harakiri. Et quand je dis c'est une révolution, parce que vous ne respectez rien dans ce journal.
Rien. Rien. Rien n'est respectable. C'est quoi le respect? C'est une valeur ajoutée à la réalité. Le réel tout cru, sans appréciation. Parce que le respect, c'est une appréciation qu'on apporte. Non, non, prenons les choses. Les choses sont drôles quand on veut les regarder d'un œil drôle. La nature humaine est ainsi faite.
Mais non, mais vous n'êtes pas méchant quand on vous connaît, vous, François Cavanna. Vous n'êtes que tendresse, vous n'êtes qu'amour.
Oui, mais ce n'est pas l'amour qui me fait rire. L'amour me donne d'autres sentiments, d'autres états d'âme. Mais, alors si rire est tellement bon, et rire de quelqu'un est encore meilleur, c'est contraire à tout ce qu'on nous a enseigné. À l'école, moi je me rappelle quand j'étais môme, il y avait encore des instructions morales et civiques à l'école. Ça n'existait plus depuis longtemps, mais à l'époque il y avait ça encore. Et on nous enseignait à être bon. Il y a un petit camarade qui est boiteux ou qui est bossu, un petit bossu dans la classe. Quelle est la première réaction? Se marrer. C'est pauvre con, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs.
Oui, mais c'est pas gentil, hein.
Mais il ne s'agit pas de gentillesse, mon vieux. Il s'agit de vérité. Vous me demandez pourquoi j'ai fait ceci, je vous le dis. Parce que ça nous faisait marrer. Parce que spontanément, le petit bossu fait marrer. C'est pourquoi le maître se donne tant de mal pour nous démontrer qu'il faut être bon, qu'il faut être charitable, qu'il ne faut pas se moquer du petit bossu, il faut faire comme s'il n'était pas bossu. Rien que cette phrase-là, ça ne vous fait pas rire.
Oui, bien sûr que ça fait rire. Et d'ailleurs, c'est des volumes publiés chez Webeck Le Monde, parce que c'est formidable, ce recueil comme ça de ces grandes années. Mais on se dit, quelle liberté il y avait à l'époque!
Ah non, alors. Ah non, la liberté, on l'a conquise, on l'a volée, on l'a... Non. C'était pire que maintenant. Surtout les rapports, que ce soit le sexe, que ce soit la politique, que ce soit... Non, il faut se rappeler que c'était une époque sombre, une époque gourmée, digne. Il y avait un militaire à la tête du pays.
C'est le général de Gaulle, il vous aimait pas trop, lui, hein?
Il ne nous a jamais fait tellement de mal personnellement. Non. Il a fallu qu'il meure pour nous nuire.
Bon, oui, parce que vous avez publié une qui a pas plu à tout le monde.
Écoutez, il est mort. Il était général, président de la République, il meurt. Mais la semaine d'avant, il y avait eu un événement. C'était un lycée. Non, qu'est-ce que je raconte ?
Une boîte de nuit.
Une boîte de nuit, une petite boîte de nuit pour les gosses qui flambe. 125 morts. Tous les journaux, titres énormes et tout ça. Bon, on encaisse le coup, oui, c'est pas bon. Et la semaine d'après, le général meurt. Alors c'était plus fort. Je ne sais plus qui, personnellement, a eu l'idée. En tout cas, toute la bande l'a accepté avec des hurlements de joie. Balle tragique à Colombey, un mort. Merde. On savait ce qu'on risquait. On le savait,
mais vous ne l'avez pas volé, parce que interdiction après, hein.
Ah oui, on ne pouvait pas s'en empêcher. C'était plus fort que nous. On l'a risqué.
Oui. J'allais dire, vous pensez aider à changer la société. Vous avez contribué à changer la société.
Mais oui, déjà, contre la censure, contre certaines. Oui, contre pas mal d'abus, oui, c'est vrai. Contre le racisme même. En se moquant des nègres.
Ah bon?
Justement. Un nègre est-il soluble dans l'acide sulfurique? Vous prenez un enfant nègre, vous le tenez par les cheveux, vous le plongez dans un bac d'acide sulfurique, vous sortez, et effectivement, il n'y a plus de bas de nègre. Il vous reste une tête de négrillon, tout le bas est fondu. Oui.
Mais ça, c'est, donc, ça, c'est antiraciste, ça?
Oui, monsieur. Oui. Aller dans le sens des racistes, en exagérant, en allant aussi fort, aussi méchamment qu'eux, mais beaucoup plus loin, beaucoup plus fort, montrer que la connerie du racisme, oui, je maintiens que de cette façon, on était plus antiraciste que les antiracistes à discours. Et je vous cite celle-là, mais il y en a eu des autres, des tas d'autres. On était méchants, voilà.
Ouais. Et maintenant, on ne peut plus, alors.
Donc vous dites,
on ne voit plus, ça n'existe plus, les harakiri. Il n'y a plus de journaux qui font ça.
C'est autre chose, il n'y a plus de journaux parce que... Il s'est cassé la gueule parce que tué par les procès, tué par l'incertitude de Choron. Bon, mais l'esprit est là. Et si nous, on avait envie de rire, par tous les moyens et par les moyens les plus méchants, mais c'est toujours possible, et bien plus facile qu'à l'époque.
Mais alors pourquoi on ne le fait pas?
Ah,
parce qu'on
cher
a
monsieur,
trop...
dites-le-moi.
Je bonne ne sais question. Pas, c'est à vous que je le dis.
Très bonne question. Ben, pour l'instant, je ne le fais pas parce que je n'ai pas les moyens.
Mais vous, vous seriez prêt à repartir comme au premier jour, hein?
Franchement, hein, franchement, oui.
Oui.
Oui. Ah, c'était formidable. Cette bande de gars qui se réunissaient pour faire un travail très difficile et très prenant, mais ce travail devait aboutir à une crise de rire. On devait se marrer, et pour de bon, pas faire semblant, pour faire plaisir au patron. Rire, rire. Et quand on y arrivait, c'était gagné. Et, imaginez un peu cette bande de cornichons, de grands adolescents, de vieux enfants qui se marraient comme des baleines à des conneries. On a bien ri, hein. Vraiment
merci.
Bien ri.
Merci François Cavanna. Merci surtout de nous avoir fait rire et puis de tout ça, parce que bon, voilà, hein, de vous aussi. C'est vous, ça, c'est vous qui êtes dans ces bouquins-là, c'est votre vie.
C'est ma vie, oui. Oui, 25 années de ma vie, les 25 plus belles années de ma vie, les 25 plus fiévreuses, plus pleines, plus animées, plus dangereuses et plus amicales. On était des amis. Il n'y a jamais eu de concurrence entre nous. Il n'y a pas eu un gars qui aurait voulu un peu plus de place dans une passe au détriment d'un autre. Non, non, et quand il y en a un qui manquait pour maladie ou autre chose, il y a tout de suite quelqu'un d'autre qui se présentait. Il n'y a jamais eu... Oh, c'est formidable, ça. Une équipe où il n'y a jamais eu de problème de primauté, d'ambition, de... Non. C'est beau, non?
Voilà, à propos confié à TV5 Monde en 2011, au moment où sortait son dernier livre, je ne saurais trop vous conseiller d'aller voir en livre de poche, puisque pratiquement tous ses titres sont sortis, avec notamment L'Hérital, qui est le livre emblématique de son arrivée en France, lui, fils d'immigré italien. Alors, Harakiri, c'était une manière désinvolte, quelquefois provocatrice, de traiter l'actualité. Pour revenir à la musique et à John Coltrane, donc lui, il avait une façon aussi très provocatrice de considérer la musique. En tout cas, la musique, pour lui, c'était une façon de remuer un peu les consciences et on ne devait pas rester indifférent. Alors, au cours de cette année 1960, j'ai déjà évoqué le premier album qui a un peu introduit la rupture, Giant Steps. Donc, il y eut quatre albums sous son nom, en quartet, musique très personnelle, donc en l'occurrence donc Giant Steps, Coltrane Sound et Coltrane Plays the Blues. Et puis, peut-être le plus important, qui reprenait notamment un standard du jazz, My Favorite Things, que le musicien allait étirer, dont il allait faire joué par beaucoup d'autres, toujours un petit peu de la même façon, il allait lui donner une nouvelle dimension, étirer le thème dans la durée et reprendre sans cesse ce thème jusqu'à en tirer vraiment le maximum en termes harmoniques et en termes d'improvisation, puisque ce qui probablement caractérise ce début de période, c'est la liberté totale dans l'improvisation. Alors, je n'ai pas choisi le thème, le My Favorite Things de 1960, parce qu'on l'a déjà en général beaucoup entendu. Je vous propose d'écouter en concert à Stockholm, le 23 novembre 1961, une autre version de My Favorite Things, avec notamment Eric Dolphy. Thank you. tandis que s'éloigne la flûte d'Éric Dolphy, remarquable flûtiste qui amène cet instrument à son véritable rôle d'instrument de jazz, car c'est un instrument qui est fortement connoté, en tout cas sur le plan classique, et même sur le plan du jazz, peu de musiciens ont réussi à faire de cet instrument un véritable instrument d'improvisation et de swing. Éric Dolphy y parvenait parfaitement. Il joue ici donc avec John Coltrane, qu'on entendait au saxophone soprano, exposé le thème de My Favorite Things. Et puis, on entendait également au piano McCoy Tyner, qui sera le compagnon indéfectible de John Coltrane, avec Reggie Workman à la contrebasse et le merveilleux Elvin Jones à la batterie, avec cette formidable pulsation permanente qu'il insuffle au quartet. Alors, en cette année 60, eh bien, John Coltrane croise un autre pionnier de ce nouveau jazz qui naît. Il l'a rencontré l'année précédente. Il s'agit d'un chef d'orchestre un petit peu illuminé, c'est le moins qu'on puisse dire. Il s'agit de Sun Ra. Sun Ra qui dirigera une grande formation, aura un intérêt pour l'écriture pour orchestre, et que là, on va entendre dans une version très personnelle d'une composition de Gershwin, « I love you, Porgy ». Thank you. enregistré le 17 juin 1960 par un quartet dirigé par Sun Ra au piano, John Gilmour à saxophone ténor, Marshall Allen à la flûte, Ronnie Bowkins à la basse et John Hardy à la batterie. C'est ce quartet qui servira de structure de base à ce qui allait devenir l'Arquesta, c'est-à-dire le grand orchestre de Sun Ra, avec cette constante référence au soleil, Sun Ra, Sun, soleil en anglais, Ra, le dieu du soleil, pour les Égyptiens. Voilà, et ensuite la marche donc triomphale, si on peut dire, de Sun Ra se poursuivra. On aura l'occasion d'en entendre encore quelques extraits probablement. Voilà, ainsi s'achève ce troisième épisode. Le quatrième est à venir, mais c'est aussi une autre histoire.
This city, of all cities, knows the dream of freedom.
Toi qui souffres, ici, on t'aime.
I take pride in the words, Ich bin ein Berliner.
I have a dream.
Il ne durera pas toujours cette guerre.
J'invite tous les militaires français, où qu'ils se trouvent, à se mettre en rapport avec moi.
François Mitterrand l'affirme, il est en pleine santé.
Attendez que la gauche porte everywhere en 2012.
I said I want to fuck her.
Que des mots pas très gentils.
Et tout se résume à aujourd'hui.